Voilà. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez les oreilles du front loin, oula, les oreilles loin du front, très très loin, très très loin du front. Jusqu'à 20h30 le mercredi, jusqu'à 14h le vendredi, c'est ça. Et donc ce soir on va vous parler logiciel libre, parce qu'on reçoit des gens de GlobeNet et de Samizdat, parce qu'en fait au sein de l'émission, on s'est posé une question sur sur l'hébergement qu'on avait actuellement pour le site internet. Actuellement on est chez Free, comme beaucoup de personnes, c'est gratuit, on a de l'espace, enfin c'est super, mais d'un point de vue éthique il y a peut-être mieux. Et donc on a décidé de migrer chez GlobeNet par militantisme. Alors on va revenir un peu sur pourquoi ce choix, pourquoi GlobeNet, et de voir ce qu'on y perd, ce qu'on y gagne. Voilà, on pense qu'on vend moins notre âme au diable, quoi. Voilà, au moins pas au porno et pas ah bon, GlobeNet si.
On la vend plus du tout même au diable.
On la vend plus au diable. Voilà, enfin bon, bref, c'est pas au Minitel Rose ni au rachat de sites pornographiques, puisqu'il me semble que récemment Free s'est fait abrier par ses rachats. Voilà. Ouais. Donc on va recevoir tout de suite messieurs, s'il vous plaît, en place les présentations. Donc allez-y, présentez-vous parce que je ne vous connais pas. Proche du micro, s'il vous plaît.
Moi, je suis Pedro, je m'occupe de Samizdat depuis une dizaine d'années et on est un collectif de communication alternative sur l'Internet depuis 1995.
Valentin de GlobeNet, donc l'hébergeur de Les Oreilles Loin du Front, c'est ça?
Bien joué, bien joué.
Donc Nicolas, bénévole chez GlobeNet depuis 2 ans, et en 3 mots, GlobeNet, c'est l'hébergement d'associations, l'hébergement depuis 10 ans, et c'est le service Nolog d'email et de connexion Internet.
Et on a tous une adresse chez Nolog ici.
Exactement.
Juliette.
Y compris LOLDF, qui a son adresse depuis peu. Bah, peut-être que vous pourriez présenter déjà un peu plus, plus qu'en 3 mots, et Samizdat et GlobeNet, puisque l'enjeu de l'émission, c'est un peu justement de dire justement ce que ça signifie de militer sur Internet, pourquoi est-ce qu'il y a, enfin sur Internet ou sur les ordinateurs, quoi, d'une manière générale, pourquoi faire ce choix-là, et puis quelle forme ça peut prendre, quoi. Donc peut-être Pedro, si tu veux commencer, pourquoi est-ce que, Samizdat, ça s'est créé pourquoi, et quand, si tu reviens un peu sur l'histoire du collectif.
Alors, Samizdat, ça s'est créé en 95, juste un tout petit peu avant le mouvement de décembre 95, sur la base d'un principe qui était simple à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, qui était d'essayer de donner aux acteurs des mouvements sociaux et des luttes sociales les moyens de leur propre communication. C'est-à-dire, en gros, partant du constat que les mouvements sociaux étaient traités dans la presse par des journalistes qui faisaient leur boulot, mais qui faisaient un filtre entre les acteurs du mouvement et le public, et que les acteurs du mouvement eux-mêmes avaient des choses à dire et qui pouvaient très bien les dire directement, bah notre objectif, ça a été de leur donner les moyens de communiquer directement.
C'est-à-dire, ça a pris, quand tu dis les moyens, ça prend quelle forme? Vous avez développé quoi comme type d'outils, en fait?
Alors, si tu veux, l'exemple le plus simple, je crois, qu'on peut donner à l'époque, c'était un petit peu plus tard, mais c'était pendant le mouvement des chômeurs, où il y a eu un certain nombre d'occupations d'ANPE, d'antennes acéniques, etc. Bah, le réflexe, c'est tu t'enfermes dans une ANPE ou dans une acénique, tu t'enfermes dans la pièce où il y a un téléphone, parce que comme ça, tu peux donner des nouvelles à l'extérieur. Parce qu'en 96-97, il y avait beaucoup moins de portables qu'aujourd'hui. Voilà, donc de base, c'était l'idée, c'était autour de ça. Et en fait, ce qu'on offrait comme service à l'époque, c'était une liste de diffusion qui s'appelait Conflit, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacée par une autre liste de diffusion qui s'appelle Infozone. Et puis un site web, un site internet sur lequel on diffuse un certain nombre d'informations.
Ok. Et Nico ou Valentin, quand vous voulez, présenter un peu. Un peu GlobeNet. Et d'ailleurs, parce que là, ils se font des politesses que vous ne pouvez pas voir.
Ouais, GlobeNet, c'est une vieille structure qui a été montée il y a, ça fait ses 10 ans, en fait, c'est aussi vieux que ça, mais c'est plus vieux, 4 ans, enfin, c'est des vieux machins. Et c'est le sujet était plus à l'origine d'héberger d'offrir des services Internet aux associations françaises. Et c'est dans l'idée que on offre les services Internet que peut vouloir le monde militant ou le monde associatif n'est pas le même que les services que peuvent vouloir les entreprises privées. Et c'est les outillages sont pas les mêmes, et c'est les mises en place sont pas les mêmes, et parce que les buts sont pas les mêmes et que la technologie est pas neutre. Donc logiquement, c'est les outils sont différents, et il n'y avait pas grand monde pour mettre en place les outils du monde associatif pour utiliser Internet. C'était à peu près lié aussi à une distance particulière du monde militant par rapport à Internet, spécialement dans ces années-là où Internet était beaucoup considéré non pas comme quelque chose de positif, mais un peu comme un outil marketing, un outil du capitaliste exclusivement. C'est ce qui est plus vraiment le cas aujourd'hui. On voit de plus en plus de structures venir à Internet parce que c'est un outil de communication, en tant qu'outil de communication, et on voit de plus en plus de structures pour qui l'Internet est le principal vecteur de communication vers le grand public et le principal moyen pour elles de se faire connaître et d'exister.
Juste peut-être pour mettre un peu en place, pour Samizdat, le nombre de personnes qui sont abonnées à la newsletter d'Infozone, il représente à peu près combien de personnes qui la reçoivent ?
Il y a à peu près 500 abonnés pour Infozone, qui est consacré au mouvement sur la France, et à peu près 400 sur Globe, qui est plus consacré à l'actualité internationale.
D'accord. Et pour GlobeNet, pour donner aussi un ordre d'idée, au niveau des hébergements, vous hébergez combien d'associations en ce moment, ou combien de...
Il y a environ 200 associations, groupes, personnes hébergées pour les sites. Il y a aussi un versant de GlobeNet qui est complémentaire, qui existe depuis 2002, depuis l'introduction de la LCEN, la loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui était la loi qui mettait en place les premières obligations de surveillance des communications. Et donc c'est le service Nolog sur lequel il y a 20 000 adresses e-mail actives.
20 000, oui. Et peut-être que justement on pourrait revenir sur ce qui fait en fait la nécessité de créer des structures comme les vôtres. C'est-à-dire sur un peu le paysage qui sont les dominants sur Internet, quoi. Comment ça se construit, quelles sont les lois qui régissent le domaine, notamment en termes de surveillance des données, ce sur quoi GlobeNet travaille pas mal. Vous avez fait pas mal d'ateliers sur le cryptage des données, notamment. Peut-être que vous pourriez expliquer un peu les lois qui ont motivé justement cette riposte. Et expliquer comment ça se passe.
Ouh là là, vous avez une demi-journée.
En bref, et pour des néophytes.
Alors, expliquer les lois et l'état des lieux, peut-être pas, mais si on peut faire un parallèle avec ce qu'on voit en termes de traitement de l'immigration, des fichages ADN et des... tout ce qu'on voit en termes de fichage dans des transports, que ce soit dans les avions, dans les trains... dans les métros, dans les donc c'est le parallèle est exact avec Internet. Il n'y a pas de logique qu'il en soit autrement. C'est que c'est un peu le régime du tous fichés, et c'est sur Internet comme ailleurs, en fait, le tous fichés rejoint à la fois une politique très très sécuritaire des gouvernements à l'échelle de l'ensemble des pays développés aujourd'hui, et rejoint aussi un intérêt du business. C'est que le fichage obligatoire, c'est aussi le droit d'exploiter les données personnelles pour les ficheurs, c'est essentiellement les entreprises privées. Donc c'est, on a cette aujourd'hui, c'est on voit mûrir et monter en puissance ce régime d'accord entre les gouvernants
et les entreprises pour ficher la population pour des usages de police d'un côté et pour des usages de marketing fin de l'autre côté.
Ça veut dire que là, si je vais chez GlobeNet et que j'ai une adresse chez Nolog, je ne suis pas fiché?
On est fiché dans la limite de la législation. C'est-à-dire que Nolog, du moins pour l'instant, est un service légal, en ce sens qu'il a le droit d'exister sur le territoire. Donc on fiche ce qu'on est obligé de ficher, on fiche que ce qu'on est obligé de ficher, et on n'en fait pas d'exploitation commerciale. Donc ça a des limites, en particulier avec les législations qui obligent les prestataires techniques à ficher beaucoup de choses. Donc on fiche beaucoup de choses. On s'en sert pas pour faire de l'artap ou pour vendre de la sauce. Et on en fiche le moins possible et on est le plus dur possible pour ce qui est de donner les informations. Mais on est dans le cadre, aujourd'hui en tant que Nolog, on est dans le cadre d'un service légal donc qui fiche.
Mais peut-on avoir une petite idée de ce qu'on est capable de savoir sur nous lorsqu'on va sur Internet, lorsqu'on est fiché?
Je vais rebondir sur ce que disait Valentin et en partie répondre à ta question. C'est-à-dire que à la base, ce dont il faut avoir conscience, c'est que quand tu es sur Internet, quoi que tu fasses, tu laisses une trace, quelle que soit la forme de la trace qui existe. C'est-à-dire que quand t'envoies un mail à quelqu'un, ton mail passe de machine en machine, et forcément, ça laisse une trace sur les machines sur lesquelles c'est passé. Quand tu vas te connecter sur un site internet, on peut suivre ton passage d'une page à l'autre, etc., la façon dont tu as navigué. Et donc, ce qu'introduit la loi, la LCEN, et plus les décrets qui sont passés après, c'est l'obligation pour les hébergeurs, de conserver un certain nombre de données, donc de conserver ces traces. Donc ça veut dire que à un moment, s'il y a une demande, on peut reconstituer que tel ordinateur s'est connecté à tel endroit, à tel moment, pour faire telle chose. Voilà. D'accord ? C'est ça l'idée. Et pour compléter ce que disait Valentin tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un arrêté qui est sorti fin août ou début septembre, qui donne le tarif de facturation pour les hébergeurs, alors téléphoniques, c'est pas pour Internet, mais ça concerne les hébergeurs téléphoniques, pour les réquisitions qu'ils pourraient avoir. C'est-à-dire que si on demande d'identifier un abonné, ça coûte 6 euros. Si on demande le numéro d'une carte SIM, ça coûte 10 euros. C'est-à-dire que les tarifs de facturation, puisque le problème de conserver toutes ces traces, tous ces logs, comme on les appelle, c'est que ça prend de la place. Et que la place, ça coûte cher. C'est-à-dire que pour un hébergeur, ça veut dire acheter des disques durs supplémentaires et stocker tout ça, parce qu'il faut les garder entre 3 mois et 1 an.
Ce que tu dis sur l'hébergeur téléphonique, là, il y a une différence entre un hébergeur téléphonique et un hébergeur Internet. C'est quoi ? Il y a une spécificité dans ce que tu dis ? C'est important pourquoi ce que tu dis ?
Si tu veux, c'est pas tout à fait le même métier. C'est-à-dire que fournir de l'Internet ou fournir du téléphone, SFR ou Bouygues, c'est pas la même chose que Free ou Club Internet. Donc si tu veux, c'est deux activités différentes, mais qui sont quand même assez proches. Et ce qu'on a vu comme texte s'appliquer sur les télécommunications, il y a une forte probabilité que ça s'applique dans pas très longtemps à l'Internet.
Donc en résumé, ça rapporte aux entreprises ce genre de logage en fait ?
Ça peut le rapporter si elles souhaitent l'exploiter commercialement, tout à fait.
Mais c'est pas le cas ?
Elles ont le droit de le faire. On ne sait pas si elles le font, on n'a pas le détail, mais dans la loi, c'est autorisé.
Si tu veux, ce texte-là, en fait, c'est la réponse de l'État et des parlementaires à l'argument des fournisseurs d'accès. C'est-à-dire que les fournisseurs d'accès commerciaux sont regroupés dans une structure qui s'appelle l'AFA, qui est l'association des fournisseurs d'accès, si je me trompe pas. Et donc, au moment où ils ont pondu la loi en disant « vous allez devoir loguer », tu as eu des cris de vierge effarouchée de l'AFA qui a fait « ah ouais, non, mais ça va nous coûter super cher, on peut pas, machin et tout ». Et donc, la réponse qu'ils ont trouvée, c'est « écoutez, on vous paye pour que vous puissiez garder les trucs et à chaque demande, vous serez rétribué, donc finalement, ça va se compenser ».
Donc c'était donc le. Alors sachant que par ailleurs il est prévu dans les textes que les hébergeurs peuvent avoir une utilisation commerciale de ces données à condition qu'elles restent anonymes, mais on peut profiler faire du profiling commercial à partir de là quoi.
Ouais, sachant qu'il y avait justement Glonet avait organisé très très récemment un atelier juridique. Au cours duquel un juriste était venu expliquer un peu le droit sur Internet. Et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, il expliquait qu'il pensait qu'effectivement, les données loguées, en fait, allaient davantage être utilisées à des fins commerciales que pour des raisons policières. C'était le premier risque sur ces données. Bon, cela étant, voilà, quoi, les deux risques sont présents. Et oui, tu voulais.
Son point de vue est que l'intérêt principal de ces logs est un intérêt commercial. Maintenant, enfin, il argumente ça en disant que en France, il y a assez peu de personnel dans les services de police, de surveillance de l'Internet, donc il n'y a pas de quoi exploiter tous ces logs.
Il donnait le chiffre de 15 voilà. employés en France contre 30 000 en Chine. Chine. Effectivement, on connaît la position.
Mais d'un autre côté, les données sont loguées, elles sont là. Donc ce qui veut dire que, par exemple, Nolog reçoit tous les ans, on va dire, entre 5 et 10 requêtes provenant d'un policier sur un mandat judiciaire pour avoir des informations sur telle adresse email.
Ah oui. Et Nolog est tenu de donner quel type d'informations à partir de là?
Alors si la requête est présentée dans les formes, si elle est présentée dans les délais nécessaires, etc., avec l'insistance qui va bien, la loi dit qu'on doit fournir tout ce qu'on a. Donc la question, ce n'est pas ce qu'on doit fournir, mais c'est ce qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir une identité des personnes, on doit avoir l'historique des connexions au réseau, parce que enfin, je parle de Nolog en termes de fournisseurs d'accès, et depuis peu, on devrait avoir aussi l'historique de tous les emails envoyés, c'est-à-dire pas le contenu des emails, mais tel expéditeur a envoyé un message à telle date, à tel destinataire.
Ouais, juste peut-être pour repréciser les choses, l'identité des nos identités qui circulent sur le net, c'est des identités réelles ou c'est des identités fausses? Parce que moi, très souvent, je balance des fausses informations sur le net. Enfin, comme quand on répond à un appel commercial téléphonique et vous avez quel âge? Ouais, j'ai 50 ans. Vous êtes un homme, une femme? Je suis une femme. Machin. Enfin, pour foirer les données. Est-ce que c'est les données qui sont recueillies, ce sont des données véritables ou des données que nous on donne? Est-ce que c'est nous qui remplissons les critères d'identifiant, donc une fausse identité?
C'est toi qui remplis les critères d'identification, qui dit quel est ton nom, quel est ton prénom, que ton nom c'est Guevara, que ton prénom c'est Che et que tu habites rue des
ouais,
Fleurs.
Ouais.
Et c'est, mais au-delà de ça, c'est ton adresse IP, c'est la tienne, ton email, c'est la tienne. Et au-delà de ce que tu vas mettre comme nom, comme prénom, etc., Amazon voit bien que tu es allé chercher tel bouquin. Il va mettre dans une case que tel bouquin, ça t'intéresse. C'est AOL va voir que tu es allé sur tel chat et que tel thème, ça t'intéresse. Ils vont se partager leurs données et ils vont, entre le chat et le machin, après, ils vont t'envoyer sur ton email de la pub pour un truc qui te concerne. C'est la base du fonctionnement commercial de l'utilisation des données personnelles.
Oui, sachant qu'il pourrait y avoir même des petits pop-up de publicité qui apparaîtront sur l'ordinateur. Juste avant de faire la pause, est-ce qu'on peut préciser très rapidement ce qu'est une adresse IP pour...
L'adresse IP, c'est comme le numéro de téléphone pour l'ordinateur sur Internet. C'est le numéro unique qui identifie ton ordinateur quand il est connecté.
Donc on a le nom de la personne derrière son adresse.
On a l'adresse IP. L'adresse IP est connectée avec un opérateur sur Internet, avec une entreprise qui travaille là-dessus, qui peut nous dire, par exemple, quand tu es chez Free, quand tu te connectes, Free te donne une adresse IP et Free sait que l'adresse IP correspond à tel compte. Le compte, c'est ton compte, c'est ton nom, pour lequel tu as donné un nom et un RIP pour payer l'abonnement.
Alegria! Campesina! A caballo! Arranel! Prelu porta busca panoche capadret. Prelu porta busca in vergogna calandret. La letra in un gioco è da casa mundo fort. Fatti che patrioc si costa di Santa Cruz. Prelu porta busca rana de caparacce. Canto porta busca rana gauda un bondacce. Si tu caminau della rio da lagun. Junto con il nau della rio di Calempun. Si è nata Flavedina. Danza cumbia campesina, la rana di no latina, parlo che è un'allegria. Minorita senza raia, a poco di noi da raia, quando la vita sta a cavaia, a chi ne calia o sbarbaia. Oh, mio Dio, che lupo te tu!
Bon, chanter c'est bien, mais élaborer une politique pour gagner et s'organiser c'est mieux.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 20h30.
On vous passe la citation dont on ne se lâche jamais.
Voilà. Et donc ce soir on est avec Globenet et Samistat et on parle on va rentrer dans le vif du sujet on est rentré déjà depuis 20 minutes, mais c'est sur le logiciel libre. On parlait juste avant du fichage généralisé et sur internet et comment est-ce que les fournisseurs d'accès il y a des lois qui leur imposent de pouvoir fournir les données quand il y en a besoin. Et donc, est-ce qu'il y a moyen d'échapper à ça? Donc, on en a parlé avec Globenet, mais est-ce que d'un point de vue logiciel, est-ce qu'avec un logiciel libre, on va redéfinir ce que c'est, mais est-ce qu'on peut déjà, avec un logiciel libre, éviter ce fichage? Est-ce que Firefox, par exemple, pour ne citer que lui, qui est un logiciel libre, qui remplace Internet Explorer, ou Safari sur Mac, ou on prend des noms que tout le monde connaît, est-ce que Firefox ou Mozilla empêche la conservation de certaines données, pour être clair?
Non.
Voilà.
Non. Mais si tu veux une réponse simple, la réponse est non. C'est-à-dire que il faut pas. je pense qu'il faut distinguer entre les choses. C'est-à-dire que D'une part, de toute façon, tu laisses des traces, tes données sont stockées. D'accord? Donc la question que tu peux te poser, c'est comment être le plus anonyme possible. Donc la façon d'être le plus anonyme possible, c'est soit d'utiliser des ordinateurs publics type cybercafé, parce que là on remontera jusqu'à cet ordinateur-là et puis voilà. L'autre façon d'être anonyme, par exemple pour ce qui concerne le mail, c'est d'utiliser la cryptographie. C'est-à-dire que c'est exactement la même différence qu'entre envoyer une carte postale, t'envoies ta carte postale de vacances, elle passe forcément de main en main entre ton lieu de vacances et son lieu de destination, et rien ne te garantit que le facteur indélicat va pas jeter un coup d'œil pour voir que t'as marqué gros bisous maman. D'accord? Maintenant, tu prends ta même carte postale, t'écris toujours gros bisous maman, mais tu la mets dans une enveloppe. On sait pas ce qu'il y a dedans, à moins de l'ouvrir, sauf que ta maman, elle se doutera qu'elle a été ouverte. D'accord? Le principe de la cryptographie, pour faire simple, c'est ça. C'est que tu mets ton contenu dans une enveloppe. Donc ça, c'est une manière de protéger, de préserver le secret de ta correspondance et ta vie privée. Alors après, si tu veux, il y a un certain nombre d'outils logiciels qui peuvent te permettre, par exemple, de surfer de manière plus anonyme. C'est-à-dire que par rapport aux différents navigateurs que tu citais, comme Firefox, Safari, Mozilla, etc., tu peux adjoindre un certain nombre d'éléments logiciels en plus qui permettent de surfer, d'aller sur le net de manière plus anonyme. Donc un de ceux qui a été pas mal développé, qui est assez simple d'utilisation, sur lequel Globenet a fait des formations, donc je vais leur laisser la parole, mais c'est Firefox et Tor, qui permet de passer de machine en machine pour aller sur des sites web. Mais là, je vais peut-être laisser parler Nico.
Alors, juste avant de parler des logiciels en question, on va peut-être faire un point général sur le logiciel libre. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre? En quoi il est libre? Et après, on parlera plus un peu dans le logiciel de Firefox et Tor.
Bon, disons que ce qui est particulier sur Internet, pour reprendre cet angle de fichage et de données privées, c'est que c'est quand on vous fiche dans la vie physique, vous le voyez tout de suite. La caméra de surveillance, vous la voyez. La carte Navigo, vous la prenez en connaissance de cause. Votre nom, votre prénom, votre adresse sur le billet d'avion, vous le voyez. Et donc, c'est même si vous l'acceptez, quelque part, vous voyez le fichage à l'œuvre. C'est sur Internet, le fichage est totalement invisible. Et si on prend un cas extrême, en parlant des logiciels de peer-to-peer, donc pour aller écouter de la musique tranquillement sur Internet ou de la vidéo tranquillement sur Internet, si on peut utiliser des logiciels fabriqués par des entreprises, genre Casa ou des choses comme ça, et c'est la quasi-totalité des logiciels de peer-to-peer distribués gratuitement plutôt par des entreprises, comportent des spyware, donc des petits outils, qui vont, eux, écouter ce que vous téléchargez, regarder ce que vous téléchargez, remonter de la publicité en fonction de ce que vous regardez, construire des bases marketing qui vont être vendues, et leur business c'est ça. Leur business c'est pas de vendre du logiciel, le logiciel est gratuit. Leur business c'est de siphonner votre vie privée, vos pensées, vos idées pour fournir des bases marketing adaptées. Et c'est le logiciel libre dans ce cas-là, par exemple, et c'est des logiciels comme Emule qui ont les mêmes fonctions de faire du peer-to-peer, qui ont les fonctions en mieux parce qu'il n'y a pas de volonté d'en ramener à une entreprise centrale. Et surtout, c'est des logiciels qui vont vous foutre la paix, c'est, qui vont pas vous ficher, qui vont pas vous truquer. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont fabriqués par des gens comme vous, ils sont fabriqués par des équipes bénévoles ou par des équipes d'informaticiens qui sont pas là pour faire du business, qui sont là pour faciliter la vie des gens. Et c'est tous ces logiciels qui soient équivalents ou différents des logiciels privés, en général on voit qu'ils sont plus proches du public parce qu'ils sont fabriqués par le public, qui sont non intrusifs parce que leur fabricant étant le public, il n'a pas de volonté d'être intrusif. Et c'est souvent qu'ils ont des fonctionnalités proches ou meilleures ou en tout cas plus pratiques que les logiciels propriétaires. Donc on peut prendre un certain nombre d'exemples. C'est d'un côté on peut avoir Word, d'un autre côté OpenOffice. On peut avoir d'un côté Internet Explorer et d'un autre côté Firefox. C'est, on voit bien en utilisant les deux, en les mettant côte à côte et en s'en servant, on voit bien la différence d'approche qui était à leur origine, et on voit bien en quoi le résultat est différent.
Mais d'autant en plus, tu disais qu'ils étaient faits par le public, d'autant qu'il y a une ce qu'on appelle la communauté du livre, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui reste assez indéfinie, quoi qu'il n'y ait pas une communauté formellement établie, l'ensemble des personnes qui contribuent à la fabrication ou à l'amélioration des logiciels. Et ces logiciels libres, précisément, leur différence d'avec les gratuits, si on peut revenir après un petit peu là-dessus aussi, c'est notamment, je crois, que ils sont améliorables aussi en permanence, quoi. C'est-à-dire si quelqu'un, n'importe qui, par exemple quelqu'un ouvre un dossier sous OpenOffice et rencontre un problème dans l'utilisation d'OpenOffice, et peut écrire directement en disant voilà, moi j'ai repéré tel problème, et le logiciel se construit à partir justement de ces remarques collectives qui sont sur de cet usage collectif en fait du logiciel.
De manière assez formelle, le logiciel libre obéit à trois lois, quoi. Il y a des lois pour les robots d'Asimov, il y a des lois pour le logiciel libre, et ces lois, c'est une licence. Donc un logiciel libre, c'est un logiciel qui est sous licence, mais une licence qui est bien, c'est-à-dire une licence qui est en faveur
du public et pas en faveur du fabricant. Et les quatre lois du logiciel libre, si j'arrive à m'en rappeler, c'est qu'un logiciel libre est distribué avec son code source, il est distribué donc avec la matière nécessaire pour pouvoir le modifier. Un logiciel libre est librement modifiable. Personne ne peut vous restreindre dans les modifications que vous allez apporter à un logiciel libre. Un logiciel libre est librement redistribuable, c'est-à-dire vous pouvez le donner quand vous voulez, à qui vous voulez, comme vous voulez, du moment que vous le fournissez de la même manière que vous l'avez reçu, c'est-à-dire en y joignant aussi le code source qui permet de le modifier. C'est l'ensemble de ces règles qui s'applique au logiciel libre qu'on appelle la GPL, la General Public License. C'est ce qui fait que le logiciel libre appartient à son public et non pas à ceux qui l'ont développé.
Oui, pour pouvoir modifier un code source d'un logiciel libre, il faut quand même s'y connaître en informatique. C'est pas parce que c'est libre que tout le monde peut le faire.
Oui, mais d'abord il faut avoir le droit de le faire.
D'accord.
Qui se demande à qui si le... Ah oui, d'accord, il faut avoir le droit de modifier. Je crois qu'il fallait demander un droit pour modifier un logiciel libre.
C'est le droit, mais c'est surtout la possibilité. C'est-à-dire que si je te donne un logiciel sans te donner le code source, tu peux toujours avoir le droit de le modifier, tu n'arriveras pas à en faire grand-chose. C'est ça, c'est pas qu'une question de droit, c'est surtout la possibilité.
Et alors le gratuit, comment est-ce que vous définissez les logiciels gratuits avec lesquels on confond souvent les logiciels libres ?
Si tu veux, un logiciel libre peut être vendu. Ça n'a rien de scandaleux. C'est-à-dire que dans les conditions de définition que donnait Valentin, tu peux très bien vendre un logiciel libre à condition de diffuser son code source. C'est pas incompatible.
En pratique, c'est souvent gratuit, le logiciel libre, parce que tu peux le vendre, mais quand tu le vends, tu dois distribuer aux gens de quoi pouvoir le reconstruire, et ces gens à qui tu le vends ont le droit, eux, de le distribuer gratuitement. Donc finalement, un marché qui serait uniquement sur de la vente peut pas fonctionner, parce qu'après, les gens peuvent le redistribuer gratuitement, donc avec l'Internet et la reproduction facile ou la distribution facile de ces logiciels, finalement, le marché tombe à un truc quasiment gratuit.
Et alors,
si on peut, le gratuit n'a pas trop d'intérêt en soi. On a des journaux gratuits qu'on peut choper dans le métro tous les jours. C'est pas des journaux libres.
Alors juste parce que là, tu viens de dire que c'était payant. Quand on paye, enfin que ça pouvait être payant, quand on paye un logiciel libre, à qui on donne de l'argent ?
À celui qui l'a écrit ou à celui qui le vend, enfin, ça dépend.
Par exemple, quand tu achètes une distribution Mandriva, Mandrake, que tu veux la payer...
Qu'est-ce que c'est qu'une distribution Mandriva ?
Alors, en trois mots, on parle souvent de Linux. Linux, c'est comme le moteur d'une voiture, c'est juste le moteur. Quand tu n'as que le moteur, tu ne peux rien faire. Donc en général, les gens qui utilisent ce genre de système-là, l'utilisent avec plein d'autres logiciels autour, un navigateur, une interface, etc. etc. Ça, c'est une distribution. C'est le moteur et tout ce qui va autour pour que ça marche. Il y en a plusieurs qui existent, parce que justement, c'est aussi une caractéristique, c'est la diversité dans le logiciel libre. Donc il y en a plusieurs qui existent, qui sont connus. En France, on connaît surtout Mandriva, Mandrake ou Ubuntu. Il y a Red Hat aussi, que vous connaissez peut-être. Bref, certaines de ces distributions sont faites par des entreprises qui vendent ces distributions-là. Donc tu peux acheter sur Internet ou tu peux acheter dans une librairie une boîte avec des CD et des livres avec, qui t'expliquent comment ça marche. C'est de là que tu achètes ça. Maintenant, étant donné les licences de distribution de ces logiciels-là, Mandriva est obligé de mettre en ligne le code source de ces logiciels. Donc il y a des gens qui le prennent et qui en refont des logiciels qui sont aussi distribués gratuitement. Donc tu peux choisir de payer une entreprise qui va te fournir du service en plus, de l'assistance, etc. Ou tu peux choisir de uniquement prendre le logiciel et t'adresser à une communauté d'utilisateurs.
Mais justement, le cas de Mandriva est intéressant parce que ça nous permet d'aborder la question de l'économie du libre. Quoi. Mandriva, c'est une distribution particulièrement qui est assez appréciée des entreprises. Il y a pas mal d'entreprises qui sont équipées avec Mandriva, qui utilisent des versions payantes et qui utilisent Mandriva à des fins commerciales.
Je pense que c'est parce que pour les entreprises, il est important d'avoir un interlocuteur en face et un service après-vente et un service d'assistance. Et donc, c'est pour cela que les entreprises s'adressent souvent à des distributeurs qui ont derrière une entreprise avec du personnel et des gens qualifiés pour en,
Après, je pense que ça dépend aussi des pays et des pratiques. Et pour illustrer ce qu'on disait précédemment, il y a une distribution qui est assez connue qui s'appelle Red Hat et qui est beaucoup utilisée par des entreprises, notamment dans les pays anglo-saxons. Et parallèlement, il y a un projet qui est libre et qui lui s'appelle Fedora, qui développe, j'allais dire, la même chose. C'est pas totalement la même chose, mais c'est extrêmement proche, de manière totalement libre et gratuite.
Est-ce que alors Linux c'est une utopie totale pour les ordinateurs, ou est-ce que voilà quoi, c'est ça derrière la question. Est-ce que derrière il y a en quoi c'est une alternative en fait à Windows ou à Mac, et en quoi ça risque de reformer en fait, de reconstruire des monopoles de type Windows et Mac. Est-ce que ça pas Windows surtout.
Je pense que ça peut être une alternative. Après, ça dépend pour qui et ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que je pense que c'est comme pour n'importe quel ordinateur, ça dépend de l'usage qu'on en a. Et donc, des outils qui sont... parce que parler de Windows ou de Linux, c'est parler d'un système d'exploitation, de ce qui fait tourner la machine. Après, c'est qu'est-ce que tu peux y mettre à côté et dessus qui correspondra à tes besoins à un moment donné. Après, est-ce que c'est une utopie? Ça dépend aussi ce que t'en attends et ce que les gens en attendent. C'est-à-dire que je pense que ouais, c'est probablement utopique de se dire qu'un jour tous les ordinateurs du monde seront sous un système GNU Linux, parce que voilà, parce que je pense que ça n'a pas lieu d'être. Donc les gens qui attendent ça ou qui espèrent ça, ils se bercent de pas mal d'illusions. Après, je pense que une des évolutions qu'on a pu constater ces dernières années, et moi il y a 7-8 ans, quand je commençais à parler un petit peu de Linux à des gens, tout le monde me regardait avec des yeux ronds, on comprenait rien, passait pour un malade mental, enfin machin, etc. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'envie un petit peu prosélyte du milieu du logiciel libre de dire ouais mais Linux c'est bien machin, tout le monde peut s'en servir, etc. Et que finalement l'évolution qui s'est probablement passée, c'est qu'il y a un certain nombre de logiciels libres qui ont été développés pour des systèmes propriétaires, notamment pour Windows, et que en fait ça peut constituer une forme de, j'allais dire, d'apprentissage et de prise de conscience pour un certain nombre de gens. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à quelqu'un « je te prends ton ordinateur, je te change tout d'un coup », c'est « tu gardes ton Windows de merde, mais au lieu de te servir de Word, tu te sers d'OpenOffice, au lieu de te servir d'Internet Explorer, tu te sers de Firefox, au lieu de te servir de Photoshop, tu te sers de GIMP, etc. » Et ça permet de familiariser les gens avec un outil, avec une démarche, avec un état d'esprit. Et ça peut éventuellement les amener progressivement à peut-être un jour passer à un système entièrement libre.
J'y connais rien du tout, mais dans les exemples que vous donnez donc, comme tu viens de le dire, le logiciel propriétaire et son pendant en libre. Et est-ce qu'en fait le libre suit toujours ou imite toujours les fonctions du propriétaire, ou est-ce qu'il y a des formes d'innovation qui sont permises par la communauté qui vont au-delà du propriétaire?
Le libre imite rarement le propriétaire, et le libre en général c'est à l'origine de ce qui va devenir ensuite des outils propriétaires. C'est pour revenir à ces histoires d'utopie. Enfin, les plus belles utopies sont celles qui sont réalisées. Donc c'est, pour moi, les utopies c'est jamais quelque chose de négatif, c'est juste quelque chose qui est peut-être un peu moins évident à réaliser qu'autre chose. Et c'est et le libre n'a rien de quelque chose d'utopique aujourd'hui. C'est le libre est majoritaire dans les logiciels Internet. C'est-à-dire l'Internet aujourd'hui est basé sur du logiciel libre, pas sur du logiciel propriétaire. Et c'est Internet, c'est des protocoles ouverts et des logiciels libres. Et c'est ce qui lui a permis de prendre cette ampleur à cette vitesse-là aujourd'hui. C'est sinon, sans protocole ouvert et sans logiciel libre, on n'aurait pas Internet. On aurait AOL Network, Microsoft Network, Machin Network, et chacun son petit morceau de son petit bout de truc. Et c'est les logiciels libres qui ont rassemblé l'Internet en un tout commun. Et c'est pas l'apparence qu'en a le grand public, parce qu'il y a un outillage que le logiciel libre n'a pas maîtrisé aujourd'hui, c'est le poste de bureautique grand public, essentiellement parce que la bureautique grand public, c'est des interfaces graphiques, c'est des choses comme ça, et c'est énormément ça avant tout. Et les interfaces graphiques, ça fait chier les développeurs. C'est quelque chose qui est vraiment galère à faire. Donc, c'est beaucoup. Il faut vraiment, en tant qu'informaticien, il faut vraiment être payé pour faire des interfaces graphiques. Donc, c'est pour ça que ça a mis très longtemps à émerger et que c'est les seules interfaces graphiques, c'était des interfaces graphiques faites par des informaticiens qui étaient payés pour le faire. Et c'est certainement pas des bénévoles, parce que c'est trouver un informaticien bénévole ayant la volonté de développer des interfaces graphiques, c'était faut aller vraiment se lever de bonne heure. Donc c'est mais petit à petit, Linux se développant et les logiciels libres se développant par l'entremise d'Internet en étant le principal outillage du fonctionnement d'Internet, de plus en plus la question du poste de bureautique s'est posée, et c'est une question qui n'a pas été abordée sous l'angle des j'ai envie, j'ai pas envie, qui est devenu un angle politique. Il faut une alternative bureautique au logiciel propriétaire. Et il y a des informaticiens qui s'y sont collés, et qui s'y sont collés par, non pas par envie, mais réellement par volonté politique de faire aboutir un outillage libre pour le grand public. On arrive aujourd'hui à quelque chose d'exploitable, mais c'est pas encore aussi facile à utiliser qu'un Macintosh, mais ça devient dans ces dernières versions à peu près aussi facile à utiliser qu'un Windows.
Mais là, quand tu parles de bureautique grand public, parce que là, moi, j'ai en tête OpenOffice la version 2, elle me semble pas complètement moche. Entre OpenOffice 2 et Word, je vois pas la différence. C'est un changement de l'interface est la même, donc l'interface graphique, c'est des choses qui se développent. Et puis, en plus de ça, avec la communauté, c'est des gens qui amènent des notices, qui font des correspondances Word, OpenOffice, et donc on s'y retrouve très très bien. Donc oui, les problèmes actuellement avec la bureautique en public.
Pour cette bureautique-là, tu parles d'OpenOffice, c'est récent. OpenOffice 2, c'est récent. OpenOffice 1, qui date d'il y a quelques années, était beaucoup moins pratique en termes d'ergonomie. Le logiciel libre, ça n'existe pas depuis 5 ans, ça existe depuis 30 ans. Donc c'est quand même une émergence récente de ces logiciels-là qui a permis d'avoir un truc en public pour le graphisme comme pour la bureautique. Après, là, on parle aussi de l'environnement complet. C'est-à-dire pas uniquement du logiciel de bureautique, mais de ton ordinateur, pouvoir cliquer sur tel bouton pour ouvrir un fichier, pouvoir le déplacer, le copier, l'ouvrir. Et ça, c'est pas uniquement OpenOffice, c'est toute l'interface qui doit être aussi pratique, efficace et graphique pour que les gens puissent l'utiliser facilement.
Oui, parce que là, si on installe une version Linux, un Linux sur son ordinateur, on n'a pas des codes sources comme on avait avant et des lignes de code à taper. On a un système nickel avec un bureau, une maison home, un dossier personnel, l'horloge, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on retrouve sur Windows quand on l'installe pour la première
fois. Tout à fait. T'as pareil que sous Windows et t'as du choix et t'en as plus.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste.
Bonsoir, rebonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel jusqu'à 8h30, vous écoutez Les Oreilles Loin du Front aujourd'hui, et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front sur Internet aussi, http://loldf.free, aïe aïe, Fr. J'ai dit un gros mot là, j'ai dit free. On va continuer. Moi j'avais quand même une question là, c'est parce que il y a un truc qui me chiffonne avec Open Office quand même, c'est que on est dépendant d'un autre constructeur. On sait qu'Explorer c'est Microsoft qui s'en occupe. On pourrait parler d'un navigateur internet aussi. Pour Open Office c'est Sun. C'est Sun qui a développé Open Office. Oh. Peut-être des deux navigateurs.
Open Office c'est pas Sun.
Ah, c'est pas Sun.
Non.
Ah bon?
Bah, c'est ce qui est le plus dur à comprendre avec les logiciels libres, hein, c'est que tel logiciel libre, c'est pas machin ou machin. C'est personne, et c'est tout le monde, et c'est nous tous.
Et pourquoi il y a marqué Sun quand j'ouvre mon OpenOffice?
Bah, parce qu'il y a une vieille. Anciennement, Sun a donné une partie de son code aux gens qui ont développé OpenOffice. Donc il y a des morceaux de code que Sun a donné. Alors peut-être que dans les vieilles versions, il y avait écrit Sun quelque part, peut-être que ça traîne encore quelque part, mais Sun ne s'occupe pas de ça. Et en tout cas, c'est même si Sun a donné des morceaux de code, hein, ils n'ont aucun droit, aucune forme de droit, ni sur nous, ni sur le logiciel, ni sur son public.
Bon, maintenant, on va se faire engueuler par Pedro, sinon passer sur le militantisme sur Internet, justement, et voir comment on continue à lutter précisément contre Sun, quoi. Pedro, tu voulais aborder... Tu avais l'air d'avoir une idée très précise de ce
non,
que tu...
Non, j'avais pas une idée très précise ni de ce que je voulais raconter, ni de ce qu'on allait me demander, mais j'avais compris que une des parties du débat portait sur l'Internet alternatif,
voilà,
et sur l'Internet militant.
Hein.
Et, bah, alors, qu'est-ce que c'est être militant sur Internet? Je pense qu'il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire ce qu'on fait avec GlobeNet, Samizdat, et puis d'autres comme l'Autronet, comme Ouvaton, comme l'ORAS, etc. C'est-à-dire d'être des hébergeurs alternatifs. Et ce qui nous distingue des hébergeurs je dirais commerciaux, c'est une certaine manière de voir l'Internet et une certaine éthique dans les pratiques qu'on peut avoir. Et puis le deuxième aspect, c'est l'usage qu'en ont les militants et les relations qu'on peut avoir avec eux, c'est-à-dire la façon dont nous, en tant que fournisseurs de services Internet, on donne des outils à des gens et on leur permet de s'exprimer et on leur apprend à servir de ces outils. Et la façon dont ces personnes-là les utilisent. Je pense que c'est ça un des termes du débat, au moins.
Est-ce que tu pourrais expliquer justement ce qu'est InfoZone dont tu as parlé tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que cette liste? Pourquoi elle a été construite? Et quel type d'outils, en fait, ça fournit aux militants?
Alors, InfoZone... Je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'au milieu des années 90, en fait, il y a eu un certain nombre de listes militantes qui sont apparues et qui étaient, je dirais, principalement des listes thématiques. Il y avait Zed Pajol, qui était la liste issue du mouvement des sans-papiers, qui existe toujours. Il y avait AC Forum, qui était la liste d'AC, du mouvement des chômeurs et précaires. Une autre grande liste francophone qui existe toujours, c'est Info, qui était plus liée au milieu anarchiste et libertaire. Et puis, nous, avec nos petits doigts, on faisait une liste qui s'appelait Conflit, qui était un petit peu la synthèse, le best-of des autres, et puis un certain nombre d'infos qu'on trouvait, etc. Donc en fait, l'idée d'InfoZone, ça a toujours été ça, c'est-à-dire de permettre à des gens de recevoir une information alternative et militante le plus en lien avec les mouvements, les luttes du moment, et puis donner à voir une forme d'actualité des luttes et des mouvements en cours pour la France.
Alors il y a une question qui vient là, c'est au niveau de la modération de cette liste, parce que InfoZone a eu des problèmes cette année, a été fermée quelques temps. Est-ce que tout le monde peut s'exprimer sur InfoZone? Qui décide de qui peut s'exprimer? Et si quelqu'un est coupé, pourquoi?
Alors, le InfoZone n'est pas modéré. C'est-à-dire que le principe, c'est que n'importe qui peut s'inscrire et tout abonné peut poster sur la liste. Ça, c'est le principe de base. Alors après, bon, ça mise date, on a, je sais pas, une certaine vision politique du monde, on va dire. Et il est clair que tout ce qui est propos racistes, fascistes, homophobes, sexistes, etc., n'a pas lieu d'être. Donc l'arrêt du jeu, c'est, bah, alors évidemment, si on voit arriver une adresse mail grosfacho.com, on va pas l'abonner. Et puis si quelqu'un tient des propos qui sont d'ordre raciste, sexiste, etc., ce que je viens de dire, bah, il est viré. Voilà, donc la modération se fait a posteriori. Et en général, la personne se fait virer, puis il y a un mail d'explication sur la liste.
Et GlobeNet, quels sont les quels types, où vous gérez absolument pas de liste, sauf erreur de ma part.
Il n'y a pas de liste de GlobeNet, enfin, mm-hmm. Il y a des listes internes, mais ça n'a rien à voir. Par contre, dans le service d'hébergement chez GlobeNet, il y a beaucoup d'associations, de groupes, d'ONG qui gèrent leur propre liste, mm-hmm. Et donc qui diffusent leurs informations.
D'accord. Et vous développez davantage, hein, en plus de votre activité justement d'hébergeur associatif, coopératif. Vous assurez des formations très régulièrement, vous organisez des ateliers.
En fait, on se dit que ce n'est pas seulement important d'avoir des machines qui tournent chez nous, mais c'est aussi bien que les gens sachent comment ça marche et sachent utiliser des trucs intéressants. Donc on essaye, quand on rencontre des gens qui peuvent le faire, quand on a du temps, on essaye à l'occasion de prévoir des après-midi de discussion et de formation sur un outil, un logiciel, une question, etc.
Vas-y, oui.
Alors pour compléter ce que dit Nico, bon, enfin nous aussi on a cette activité de formation puisqu'on se rend compte que c'est une nécessité. Après très clairement, nous on a envie de former les gens et de leur apprendre et de partager ce qu'on sait. Je suis pas certain que la réciproque soit très souvent vraie, c'est-à-dire que moi j'ai eu des formations où il y avait deux personnes sur un certain nombre de trucs. Il y en a qui ont été annulés au dernier moment, faute d'inscrits, etc. Donc je pense que y a, de ce point de vue-là, il y a peut-être des progrès à faire, mais de l'autre côté.
Raison de plus.
Mais il y a une sorte de clivage, même dans le milieu militant, c'est pas toujours évident de convaincre de l'importance justement de ce que vous faites, quoi, de militer de cette manière-là, d'avoir un hébergeur. Nous-mêmes, on a mis un certain temps à bouger chez un hébergeur avec lequel on était d'accord.
J'ai peur que ce soit beaucoup plus prosaïque. On a beaucoup d'associations à GlobeNet qui transitent des informations confidentielles et dont les courriers, les emails sont parfois très confidentiels, à qui on explique qu'il faut crypter son courrier électronique parce que sinon... c'est n'importe qui passe sur le réseau peut être au courant de tout ce qui est écrit dans le courrier électronique en question et que c'est pas bien, surtout vu ce qu'ils font. Et qui on nous répond oui, vous avez raison, oui.
Mais en écoutant Valentin, ça me rappelait une anecdote d'il y a quelques années où on avait co-organisé ensemble GlobeNet et Samizdat et quelques autres une conf autour de ces questions-là. C'était au CICP, on s'était amusé, on avait mis un petit sniffer au premier étage et puis on regardait ce qui passait, machin, etc. Donc les gens, il y avait des postes libres, allez-y, servez-vous, envoyez vos mails, allez surfer, machin, etc. Puis à la fin, on allait voir les gens en disant « Tiens, t'as vu ton mot de passe, c'est ça ?» Voilà, non mais c'était démonstration par l'exemple pour faire prendre conscience aux gens que ce qu'on racontait c'était pas du délire de super technicien, c'était pas voilà. Après pour revenir sur un petit peu sur ce que tu disais avant, je pense que la question de la formation des gens, c'est pas totalement neutre. Nous, par rapport à GlobeNet, on est tout petit. Je veux dire, en termes d'hébergement, on a beaucoup moins de sites, beaucoup moins de listes, etc. Et alors, par contre, c'est probablement une des différences, c'est que comme on est beaucoup plus petit, qu'il y a beaucoup moins de gens, on connaît les gens, on a des relations directes avec eux. Et le problème il se pose, c'est que quand on dit vous utilisez tel logiciel pour faire votre site, il y a une mise à jour générale à faire, etc. Ah, dans les 48 heures, j'ai 50 coups de téléphone, tu pourrais pas me le faire à ma place parce que je sais pas faire. Et que quand 6 mois avant, on a fait, on va vous faire une formation pour vous expliquer comment faire, il y avait personne. Donc cet objectif que les gens du milieu militant puissent prendre en main leur propre communication, de ce point de vue-là, il est un peu loupé.
D'accord. Donc pour contacter Samizdat, une adresse internet, l'émission touche à sa fin, pour s'inscrire sur la liste InfoZone, peut-être un contact.
Il faut aller sur le site www.samizdat.net.
Et pour GlobeNet, pour vous contacter, pour aller sur votre site, les mails et tout.
GlobeNet.org.
GlobeNet.org. Voilà.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, c'était l'émission qui a fait trembler Bill Gates ce soir pour foutre la trouille à Steve Jobs. On avait la fine fleur de la contestation radiophonique. Alors d'un côté, un doigt sur la gâchette, il y avait Juliette. Et puis de l'autre côté de la vitre, les yeux explosés à trop passer de temps devant leur écran d'ordinateur et en mangeant des champignons, il y avait donc Jérémy, l'autre Juliette, Cédric et Guillaume. Alors Les Oreilles Loin du Front, c'est diffusé et rediffusé le vendredi de 12h30 à 14h. Et le mercredi de 19h à 20h30. Et puis vous pouvez réécouter à peu près tout ce que vous avez entendu dans cette émission sur le site à l'hébergeur inique des Oreilles Loin du Front, c'est loldf.free.fr. D'ici là, Claudia, puisque j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.